vous pensez des décisions de justice récentes,
oui,
qui ont attaqué une action climatique? Il y a eu à Lyon les projets des préfets de Macron,
oui,
qui ont été. Voilà, on leur a donné raison au tribunal à Lyon. À Lausanne, il y a eu la même chose avec des gens qui ont été les chefs dans les banques. Et en Hollande, oui, il y a le gouvernement hollandais qui s'est fait attaquer par la Cour suprême pour une action climatique. Donc, est-ce que vous pensez que le judiciaire peut être une manière aussi d'intervenir de façon plus coercitive sur une action?
Alors là, c'est très intéressant. Alors, ce sont à la fois des décisions assez nouvelles, puisque effectivement, notamment le cas hollandais qui est l'inspiration de ce qui se passe du mouvement en France actuel, notre affaire à tous qui a attaqué l'État français en justice, où les associations néerlandaises Urgenda ont gagné, et donc la Cour suprême a donné une injonction à l'État à agir pour protéger les populations. Donc ce qui, en fait, de certaine façon, si on remonte dans le temps, c'est souvent la façon dont les choses se sont construites. Au 19e siècle, les politiques de gestion des risques ont démarré à partir de ces conflits entre industrie et population, au moment où l'industrie se développe au 19e. Donc ça génère des pollutions dans les quartiers, notamment sur les contours urbains, ça génère des contentieux qu'il va falloir réguler. Il y a des cas qui sont portés en justice. On retrouve la même chose au niveau des assurances travail, et donc justement ce contentieux est une façon de construire l'État. Est-ce que ça va suffire? Pour avoir rencontré un des membres de la délégation néerlandaise du gouvernement climatique, eux-mêmes voulaient contester le cas, ils pensaient aller jusqu'au bout pour faire appel et refuser la décision. Alors je pense que c'est à la fois essentiel. Et que le droit cimente toute cette politique de gestion des catastrophes. Aux États-Unis, c'est pareil, les politiques d'assistance sont fondées sur ces décisions de réparation. En même temps, je crois que, étant donné les temporalités et les conflits de temporalité sur lesquels on joue, il me semble que ça va être très compliqué, puisque pour prévoir des crises ou les prévenir, on est sur des temporalités très longues. Il faut agir maintenant. Quand les climatologues nous disent qu'on a une dizaine d'années pour agir, en fait, c'est littéral. Et du coup, les décisions de justice sont essentielles, mais ne remplaceront jamais des politiques publiques qui devraient agir, à mon avis, rapidement. Je pense que là, on tombe plus sur ces points de limite où cette extension de la protection de l'État est essentielle, mais se heurte à des limites du fait tant des transformations de l'État que ces points critiques de transformation écologique.
D'abord, plus qu'une question, c'est un retour d'expérience pour avoir la chance et l'honneur de donner la direction à ces églises du ministère de la Sécurité pour la crise de crise et l'armée. Et le parallèle, en complément ce que vous avez dit, c'est la crise au-delà de tous les schémas, la préparation, c'est vraiment les ressources humaines et les personnes qui l'incarnent au moment où la situation de crise a lieu. Et en faisant cette crise ce matin, s'il y a bien une thématique de l'État et la puissance publique a tout son sens, c'est bien dans ces situations-là, et l'intérêt général prend tout son sens, et on rencontre des personnes, que ce soit au niveau territorial ou au niveau de l'État, qui ont un sens de l'engagement et d'une expérience et un sens de la responsabilité. Pour avoir eu, on a vu que vous êtes chef d'église dans la sphère privée, on rencontre ce comportement, mais pas à ce niveau d'application, de maîtrise, d'engagement, de sens de l'État, de sens des autres, et que ça soit au niveau de la vision et de la temporalité de la crise, ou concrètement sur le terrain, lorsque la catastrophe
effectivement, on a des engagements sont essentiels, mais ce qui est aussi le résultat de tout ce processus de construction bureaucratique qui permet à ces organisations d'exister et qui a su développer des organisations, des professionnels qui fournissent un cadre pour agir dans ces situations. Ensuite, il y avait... Oui.
la nature des risques, en fait, auxquels la gestion de crise nous prépare,
ouais.
Vous avez quasiment évoqué que des risques sur lesquels on a une certitude. Vous avez plutôt entendu ça, notamment les risques d'inondation. Alors qu'en fait, il me semble que la bascule vers laquelle on est en train de s'engager, c'est des... se préparer parfois à des choses qu'on ne mesure ni l'ampleur, ni la fréquence, ni l'impact. Et ça, est-ce que c'est compris dans ce que vous avez évoqué dans la méthode des scénarios, ou est-ce qu'on met le business à ce jour?
Alors, typiquement, les scénarios, c'est pour imaginer l'inimaginable, puisque c'est une technique qui a été développée initialement pour les catastrophes nucléaires. Si vous vous rappelez peut-être vous trouvez encore quelquefois sur Internet des clients assez rigolos de conseils comment gérer sa famille en cas d'attaque nucléaire. Et quand ça passe, ensuite quand ces techniques-là sont transférées au domaine des catastrophes naturelles ou dans d'autres domaines, la frontière entre risque et incertitude devient beaucoup plus compliquée. Je l'ai présenté de façon caricaturale, risque et incertitude avec prévention d'un côté, préparation de l'autre. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai donné des exemples sur lesquels en fait on parle aussi de risque, qui sont les inondations. Aujourd'hui, on a un brouillage des frontières entre risque et crise. Sur les inondations, on a certes, on a encore nos ingénieurs des ponts qui nous font de très beaux calculs, mais on a aussi on espère. Il y a 2-3 ans, le plan Sequoia. C'est qu'il y a avec des grandes simulations, avec l'idée que même avec toutes les meilleures capacités de calcul du monde, il y a un certain nombre d'interactions complexes qui se jouent dans des scénarios de catastrophe qui font qu'il faut aussi se préparer aux grandes crises. Moi, je travaille aussi par exemple sur les crises bancaires. Depuis la crise de 2008, alors avant jusqu'en 2008, on faisait vraiment que de la gestion des risques. Calcul de proba et compagnie. Depuis 2008, on a développé des plans avec on demande aux banques de d'écrire leur scénario, de leur testament en cas de faillite. En anglais, ça s'appelle comme ça, testament. En Europe, on parle de plan de réhabilitation, un peu plus optimiste, mais c'est un plan pour la faillite. Et on a un ensemble d'instruments. On a par exemple des ratios pour forcer les banques à mettre de l'argent de côté pour la gestion de crise. Et là, on est vraiment sur la frontière risque-crise, où on utilise des outils de gestion de risque pour faire de la gestion de crise. On utilise du calcul de probabilité pour gérer de l'incertitude. Donc on est dans cette. Moi, je pense qu'on est dans les possibilités de brouillage. Je pense que j'ai d'autres collègues qui vous diraient que les domaines professionnels, risque et crise, restent très séparés. Je pense que notamment dans les DREAL, on a aujourd'hui des conflits très nets entre risque et crise. Maintenant, si je réfléchis en termes de gouvernance de l'État et vers où est-ce qu'on va, je pense que c'est assez complexe puisque... si on réfléchit là, sûrement sur ces problèmes de soutenabilité, et c'est tous les débats qu'on a sur le changement climatique, est-ce que on essaye encore d'éviter la catastrophe, ou finalement est-ce que la seule chose qui nous reste à faire, c'est juste de s'y préparer? Et là, c'est le catastrophisme éclairé à la Dupuis. Et si la seule chose à faire qui reste, c'est de s'y séparer, effectivement, les scénarios restent, les scénarios, les plans restent. La bonne chose à faire. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop réifier. Intellectuellement, conceptuellement, c'est très utile. Dans la pratique, ces notions, en fait, se combinent, s'opposent, se bousculent l'une et l'autre.
C'est pour rebondir sur ces sujets de risque et de crise. Peut-être, il me semble que l'évolution par rapport au dérèglement climatique, c'est l'obsolescence au final des valeurs statistiques qui ont permis de préparer notamment les plans de prévention des risques et du coup sur sur l'évolution qui est devant nous les 10 prochaines années, on sait pertinemment que ces valeurs tutélaires qui ont structuré au final les politiques de prévention des risques, elles sont obsolètes puisque le climat a changé, puisqu'on a déjà, le climat est en train de changer et va changer, et donc on va nous confronter à un certain nombre de crises. C'est plutôt plusieurs crises, me semble-t-il, que des crises dans la préparation de l'élection. Et du coup, j'arrive un peu, j'ai du mal un peu à me suivre dans cette différenciation entre risque et crise. Parce qu'il me semble justement que tout l'enjeu, au-delà des politiques d'atténuation dont on emprunte pour, au final, éviter l'ingérable, c'est un peu ça les politiques d'atténuation, sur les politiques d'adaptation, est-ce qu'il ne vous paraît pas plutôt que de se dire le sujet est un problème de gestion de crise, plutôt dans le consensus sur comment on appréhende le risque et quel est le type de risque acceptable. On en parlait aussi tout à l'heure ici sur les sujets. Est-ce qu'au final, le sujet, c'est pas de dire on accepte que les voies sur berge à Paris elles soient inondées 20 jours par an, on accepte que la maison au bord de la plage, elle va être détruite tous les 10 ans, et ça ne pose pas de problème. Et au final, la question-là, sociologiquement, elle n'est pas dans notre rapport au risque et dans ce consensus que l'on fait dans notre réponse au risque, qui peut être de la résistance ou autre chose.
Oui, alors là, je pense que c'est effectivement un point fondamental. Alors, juste pour revenir au début, effectivement, on a l'accélération du changement climatique pose des problèmes fondamentaux au calcul de probabilité, puisque on n'a plus les mêmes points de référence, notamment, par exemple, ce qu'on pensait être des crues centennales deviennent des crues décennales. Ça pose pas toujours tout. Alors, étonnamment, ça permet aussi d'autres choses. Par exemple, en Angleterre, on pensait que les inondations n'étaient pas des catastrophes suffisamment récurrentes pour être assurables. Aujourd'hui, le mois dernier, il y a eu des inondations tous les week-ends en Angleterre. Du coup, ça devient un événement assurable puisque les occurrences deviennent suffisamment récurrentes. Donc, en fait, l'idée qu'on ne va plus pouvoir faire du calcul de probabilité est compliqué, en fait, ça, c'est au cas par cas. Sur la distinction risque et crise, là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a une partie, un camp qui dit, finalement, on peut plus, là, on a du mal à prévoir. Et encore que, si on se plonge dans la... J'ai commencé à regarder tous ces travaux des climatologues, écologues et compagnie, je pense qu'on a quand même un certain nombre de prédictions assez fiable sur ce qui va se passer. On peut malgré tout dire finalement, on accepte que de toute façon, quel que ce soit ce qui se passe, ça va aller dans le camp du dérèglement. Donc on fait des transformations brutales, on accepte la crise et on revient, on se prépare à l'inconnu. La question de l'acceptabilité, je trouve qu'elle est absolument pertinente. Dans un contexte d'État-providence ou d'État qui fonctionne bien avec des politiques. Quel homme politique va aller demander finalement qu'est-ce qui est acceptable? Et ensuite, le problème, c'est qu'on fait face à un ensemble d'événements qui vont être très fondamentalement inacceptables. Je vais vous donner un exemple intéressant, c'est Xynthia. Après Xynthia, vous savez, on a eu une partie de disparition du trait de côte et l'État a créé ces zones noires où il a racheté des terrains en disant on considère ces terrains comme étant trop inondables et on rembourse les propriétaires. Mais on a d'autres terrains qui restent en fait complètement inondables. Et là, on voit bien ces conflits sur l'acceptabilité qui, à mon avis, sont la raison très précise pour laquelle, on ne se prépare pas du tout aux crises climatiques à venir. C'est que l'acceptabilité face à un événement, en fait, ne pose pas juste l'acceptabilité de cet événement. En fait, très souvent, les gestionnaires des catastrophes ne réfléchissent qu'à une catastrophe. On a l'inondation qui nous vient dans 20 ans. Chaque individu, en fait, fait face à une multitude de risques. Le problème de l'acceptabilité est extrêmement compliqué, puisque dans le cas de Xynthia, On a des propriétaires qui, du coup, vont voir la valeur de leurs biens réduite à néant, des communautés qui vont voir la valeur de, enfin, des villes qui vont tout simplement cesser d'exister, et ce qui pose des problèmes d'acceptabilité sociale absolument fondamentaux dans le cadre de l'État providence tel qu'il est actuel. Alors, soit on a des mécanismes fondamentaux pour gérer ces inégalités sociales-là telles qu'elles ont été créées. Alors avec le bémol, et là je suis entièrement ce qu'a dit Éloi Laurent, sauf que bon, avec le petit bémol que sur les côtes, ce sont principalement les populations aisées qui ont des maisons bord de la mer. Donc est-ce qu'on va les subventionner? Je pense que voilà, l'acceptabilité, elle fonctionne. C'est une question fondamentale, mais que face à l'accélération des crises auxquelles on fait face, elle ne va pas tenir.
Trois questions pour finir, parce qu'on a nos étudiants qui sont arrivés.
J'ai beaucoup apprécié le décodage que vous nous avez fait de la fabrique des crises. À grande échelle, moi je voyais bien effectivement l'État compassionnel avec Napoléon III à Lyon, mais qui était aussi un État aménageur, qui fait des barrages, qui fait des digues, en tout cas, donne l'impression qu'il agit et qu'il prévient, c'est ce que vous dites. Ce moment de la gestion de crise, mais qui du coup m'apparaît un moment dans la recomposition des États face à quelque chose que vous venez d'évoquer avec Cynthia, mais qui va, de mon point de vue, beaucoup plus loin, qui veut dire à ce moment-là, faut rentrer dans des logiques d'action, de transformation d'un certain nombre de nos territoires, non plus pour simplement gérer le fait qu'il y a une grande marée et une tempête qui amène en même temps l'inondation de deux ou trois communes, en l'espèce en Vendée, mais si on est sur ce trait de côte où c'est peut-être des centaines et des milliers de logements qui ne sont pas tous des résidences secondaires maintenant, qui sont sur une partie de la côte française, atlantique et manche, et à ce moment-là, ça veut dire c'est quoi la transformation de l'argent public qui servait à prévenir autre chose vers ces actions-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait un débat en France suffisamment installé pour se dire c'est par exemple le trait de côte qu'on va traiter avec expropriation ou rachat de parcelles privées, ou c'est d'autres risques que légitimement on voudrait prévenir. Et donc ça, c'est une vraie question de débat public. Comment on articule ça au-delà simplement de la question de gérer des crises qui, alors, moi j'ai retenu ça aussi, c'est, vous l'avez bien montré, des plans successifs, rationnels, chacun pour son domaine. Mais aujourd'hui, on est peut-être devant des crises systémiques où, en fait, c'est des choses qui vont s'additionner, mélanger différentes dimensions de crises, sanitaires, naturelles, etc.
On va prendre trois points, tu peux retirer trois, comme ça on va finir.
Oui, mais j'avais une question à la fois pour vous et monsieur Lecalès, qui prolonge un petit peu cette question. C'est on parle là d'État planificateur au travers de la gestion de crise. On a parlé tout à l'heure d'institutionnalisation. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu encore aujourd'hui, mais qui rejoint la question présente, c'est la notion d'État stratège, en fait. Est-ce qu'on est encore dans une situation de la part d'un État stratège, ou est-ce qu'on est en train de reléguer cette position soit au territoire, on a parlé des villes nations tout à l'heure, soit aux entreprises? Et là, j'ai des exemples sur le numérique, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait sur les grands plans numériques? Quelle est leur place? Est-ce que l'État est encore expert? Est-ce qu'il est juste normalisateur? Dans tout ça, j'ai l'impression qu'on gère beaucoup le quotidien et les crises, et qu'on a arrêté ce côté aménageur, parce que moi j'appelle l'État stratège quelque part, au-delà même juste de l'aménagement, c'est de penser le futur au-delà de la crise, mais vers où on va. On parlait tout à l'heure d'indicateurs de santé des enfants. Cette vision-là, et je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, est-ce que faut faire une croix dessus? Est-ce qu'on est en transition justement vers d'autres systèmes?
J'attends ma réponse avec impatience.
Vous êtes interpellé aussi.
Allez, moi, sur la notion de résilience,
on en reparle demain.
Non, parce que c'est vrai qu'on voit qu'on est sur la gestion de crise aujourd'hui, c'est énormément des plans, des procédures. Et en fait, ça correspond en fait à des extraits. Enfin, moi, j'avais un groupe qui m'avait marqué, un groupe qui m'avait parlé de la gestion qui m'expliquait. Un risque de ne perdre une chose sur 100 de mourir, typiquement c'est un marin pêcheur, le risque il est géré au niveau individuel. c'est la survie. En gros, soit on a l'expérience, on ne meurt pas, mais c'est géré, c'est le pilote dans la première guerre mondiale. Dès qu'on arrive à une chance sur 1000, une chance sur 10 000, c'est le modèle des pompiers, c'est le risque qui est géré collectivement dans l'équipe, il y a suffisamment d'expérience. Et quand on arrive sur les risques très faibles, aviation civile, nucléaire, par définition, c'est des risques qu'on ne connaît pas, que personne n'a vécu, donc c'est la procédure. C'est la procédure pour. Et moi, je m'interroge, parce que du coup, on voit qu'en fait, dans une société qui a une aversion au risque, d'où le fait que d'ailleurs, les risques sont très faibles, et que les risques vont être donc croissants avec le changement climatique. Du coup, moi, je m'interroge sur cette notion de résilience. Est-ce que c'est pas tout simplement baisser les bras, mais accepter une forme de sélection naturelle et de dire, bah, somme toute, c'est les territoires qui vont survivre sans ceux qui vont
Alors, réponse rapide là-dessus. Effectivement, les sciences, je dirais qu'une partie de la sociologie trouve que la résilience est un discours néolibéral, en fait, qui donne de la responsabilité, qui renvoie, qui déplace la responsabilité de l'État aux individus et aux territoires, avec finalement l'État un peu qui disparaît. Et ce qui, évidemment, ne pose pas la question de l'inégalité des ressources pour créer la résilience. Et même d'une certaine façon, si vous voulez être cynique, un mendiant dans la rue qui habiterait au bord de la Seine est en fait très résilient, puisqu'il n'a pas de bien, il ne va pas perdre grand-chose. Il monte sur, s'il y a une crue de 5 mètres, il monte en haut, il a survécu à la crise, il est parfaitement résilient. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème. Voilà, et donc ça fait partie de ces discours qui justement sont relativement associés avec ces transformations de l'État et de mise en retrait. Sur en fait les deux questions là, auxquelles je vais répondre ensemble, je suis en fait assez d'accord sur le fait que la gestion de crise aujourd'hui en fait reste plantée dans ce quotidien avec des catastrophes qu'on connaît et ne fait absolument pas face à l'ensemble des perturbations majeures. À venir. Alors, je pense à la fois parce que effectivement, c'est la vie des institutions d'être dépendantes de ce qu'elles ont fait avant. C'est aussi, une partie du rôle des sciences sociales qui se préoccupe plus du présent du futur. Et là, je pense qu'on a effectivement un ensemble de problèmes majeurs. Vous voyez ça très. Alors. Je dirais pas partout. Il me semble qu'effectivement, en France, je ne crois pas qu'on ait encore pris la mesure du fait qu'on va avoir des climats invivables sur une partie de la Méditerranée, des inondations plus que majeures. Alors, les Pays-Bas, il me semble que les Pays-Bas, là, sont un pays très intéressant, puisqu'on a... leur système actuel de digue peut résister jusqu'à une montée des eaux de 2 mètres. Ils peuvent faire des améliorations moyennant un certain coût. Actuellement, c'est 1 mètre et demi. C'est une crise. C'est l'équivalent d'une crue tous les 100 000 ans. Et avec la montée des eaux, moyennant un certain coût, ils peuvent aller jusqu'à une montée des eaux de 2 mètres. Après 2 mètres, en fait, c'est trop coûteux de changer le système. Et avec une montée des eaux d'un mètre, on a potentiellement un tiers du pays sous l'eau. Et donc actuellement, il y a une commission aux Pays-Bas dont j'ai oublié le nom, qui justement regarde les différentes options techniques. Et si on regarde je crois qu'on a plus de 70% de la population qui est parfaitement confiante dans le fait qu'on trouvera une solution technique au problème. Sauf que si on a un emballement des hausses de température de 3 à 4 degrés d'ici la fin de siècle, c'est pas 2 mètres de montée des eaux qu'on va avoir. Et au-delà de 2 mètres, les experts disent que en fait, la seule option, c'est l'abandon d'un tiers du territoire des Pays-Bas. Sur l'état stratège, et là, je crois qu'on a. Et là, c'est un discours qui est mis à la marge. Petite anecdote, c'est passé dans les journaux, il y a des scientifiques qui ont là juste publié, je pourrais vous donner la référence, ils ont publié en janvier dans une revue scientifique américaine, ils ont imaginé des digues, une grande digue entre la Norvège et l'Angleterre, l'Angleterre et la France, et donc l'article s'appelle la grande digue au cas où l'atténuation du climat échoue. L'atténuation du changement climatique échoue. Donc ils imaginent une grande digue pour prévenir la montée des eaux. Donc ils calculent le coût, alors c'est un coût je crois de 250 milliards, ça paraît énorme, mais c'est moins que ce qu'on a dépensé pour la crise financière. Technologiquement, on a les capacités, on pourrait le faire, mais évidemment, si je vous dis qu'on va construire une digue entre la France, l'Angleterre, l'Angleterre et la Norvège, ça paraît absolument aberrant, et je trouve que c'est à la fois une belle provocation qui montre en fait l'absurde qu'il y a à vouloir faire de la gestion de la prévention et de la gestion des crises dans une telle situation.
Avec tout ça, on va tous mourir.